bonjour toutes et tous. Donc, je suis très content de présenter ce séminaire. Donc, j'aurais remercié les équipes des séminaires. Au début, c'était un séminaire plus, mais puis apparemment, j'étais upgradé. Donc, oui. les personnes qui m'ont invité, hein, c'est parti d'une conversation avec Cynthia Yolin qui m'a invité à faire ce séminaire ici. Alors, quelques mots sur le titre, recherche fondamentale, transition écologique et sociale, les termes du débat, ça fait un peu pompeux, en particulier les termes du débat, comme si on allait clore la discussion en disant c'est comme ça qu'il faut en parler. C'est pas du tout ça l'esprit, c'est plutôt de partager une réflexion un peu personnelle, puis à partir de conversations que j'ai eues avec différentes personnes, sur comment on peut se poser ce type de questions entre voilà, le rôle de la recherche fondamentale dans les temps actuels et les temps à venir. Alors je commence ce séminaire par donner juste quelques éléments de contexte, hein, quand on dit transition écologique et sociale. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de grande accélération. Globalement, hein, ça dit que sur des tas d'indicateurs, on a, alors depuis la révolution industrielle et en particulier depuis 1950, des tas d'indicateurs qui croissent de manière très importante. Alors typiquement le PIB, la consommation d'énergie, en particulier d'énergie fossile, et du coup l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, etc., etc. Vous connaissez probablement cette citation de Kenneth Goulding. Alors en fait, il n'y a pas un livre où il l'a dit. En fait, il a été cité comme l'ayant dit. N'importe qui pense qu'une croissance exponentielle peut se poursuivre indéfiniment dans un monde fini et soit fou, soit un économiste, disait Kenneth Goulding qui était économiste. Voilà. Et une façon aussi de présenter les choses, donc sur la thématique climat, réchauffement climatique, etc. Moi j'aime bien ce graphe là qui remonte 20 000 ans en avant, donc en fait avant l'Holocène, hein, qui est notre période géologique actuelle. Donc actuellement, on est dans l'Holocène, qui a commencé il y a à peu près 10-12 000 ans. Et donc, il y a une période interglaciaire de stabilité climatique assez remarquable. Et donc, on voit qu'on est déjà en train de sortir de ce ruban de stabilité en température. Et que les prévisions, si on ne fait rien, eh bien, c'est d'en sortir franchement et assez rapidement, et donc de quelques degrés. Alors quelques degrés, ça paraît pas beaucoup. C'est intéressant de voir qu'il y a 20 000 ans, par rapport à la moyenne de l'Holocène, on était vers les moins 3,5 degrés, et c'est une période climatique, c'est une période glaciaire totalement différente de celle qu'on connaît. Hein. L'essentiel de l'Europe du Nord est sous une immense calotte glaciaire. On peut marcher de la France à l'Angleterre parce qu'il n'y a pas de manche, parce que le niveau des mers est 120 mètres plus bas qu'actuellement. Donc ça montre à quel point ces changements de quelques degrés sont quelque chose d'important et en un sens de violent par rapport à la stabilité climatique qu'on a connue les 12 000 dernières années. Voilà. Si on va un peu au-delà de la thématique énergie-climat, il y a cette façon de présenter les choses qui sont les frontières planétaire, donc ça a été introduit par Rockström et ses collègues. Donc régulièrement, en fait, ils font un état de lieu. Il y en a eu un 2009, 2015, 2023, où en fait, sur plusieurs indicateurs, eh bien, ils regardent. Alors, c'est quelque chose qui est revendiqué comme étant anthropocentré. On regarde les conditions d'habitabilité de la Terre pour l'humanité. Donc, on regarde suivant certains critères. Si on est dans des conditions qui sont encore qui permettent une vie raisonnable telle qu'on est habitué à la voir, ou si on commence à dépasser des limites, éventuellement des limites où ce sera difficile de revenir en arrière. Donc globalement, le consensus scientifique, il est sans équivoque, c'est-à-dire que dans les 200 et quelques dernières années, avec une forte accélération des 70 dernières années, les activités économiques humaines ont induit des changements profonds qui menacent l'habitabilité de la Terre. Donc ça, c'est consensus, c'est assez clair. Et donc, pour maintenir des conditions raisonnables d'habitabilité, nos sociétés doivent se transformer en profondeur pour atténuer leur empreinte environnementale, d'une part, également s'adapter aux contraintes inéluctables dont on sait qu'on ne pourra pas, auxquelles on ne pourra pas échapper. Okay, donc là, je cite par exemple Valérie Masson-Delmotte, il n'y a pas longtemps sur France Inter, qui disait « Pour transformer, il est nécessaire d'avoir une approche systémique en sortant d'une approche en silo. » Donc la question que je posais avec ce séminaire, c'est finalement quid de la recherche. C'est-à-dire qu'on a à la fois notre communauté de recherche au sens très large qui prévient sur le fait qu'on est sur une trajectoire qui est complètement insoutenable, qui dit qu'il va falloir que globalement tous les pans de nos activités se transforment en profondeur dans les quelques dizaines d'années qui viennent. Et en même temps, on peut se demander si la communauté de recherche elle-même, les institutions de recherche, sont elles-mêmes en train de se transformer pour prendre en compte ces avertissements. Alors, je voudrais juste faire un point, Jean-Philippe en a déjà parlé un tout petit peu, sur d'où je parle finalement, pourquoi je fais ce séminaire, en un sens, quelle est ma légitimité à parler de ces sujets. Donc finalement, moi, mon parcours, ça a été tout d'abord finalement comme citoyen, de me renseigner sur ces questions de catastrophes environnementales en cours. Et puis finalement, c'est un questionnement alors qui est venu assez tard, je trouve, dans ma vie et dans ma carrière, au passage. Et puis finalement, que ce questionnement empiète également sur mon activité professionnelle. Donc, comme a dit Jean-Philippe, moi, je fais de la spectroscopie optique sur les matériaux semi-conducteurs grand gamme, donc en particulier ceux qui servent à faire les LED. Et en fait, il y a à peu près 10 ans, il y a eu le prix Nobel pour les LED, justement, et la citation Nobel dit « Les LED ont servi à faire des sources de lumière blanches qui permettent des économies d'énergie. » Donc, je me suis juste posé la question, est-ce qu'on a pu montrer et on peut quantifier ces économies d'énergie grâce aux LED ? J'ai fait une revue biblio essentiellement de littérature d'économétrie. Donc, j'ai présenté ça, en fait, ce travail de recherche biblio à une conférence technique de physique des semi-conducteurs. Ce qui a été une expérience très intéressante. D'abord, mon abstract a été sélectionné pour un oral, donc ça montre qu'il y a un intérêt pour ces sujets. Et en 25 ans de carrière, j'ai jamais eu finalement une présentation où j'ai autant de gens qui viennent me voir après pour en discuter, alors soit trouver formidable ce que j'ai dit, ou au contraire avoir une réflexion critique par rapport à ce que j'ai présenté, ce qui est aussi le bienvenu, évidemment. Et puis plus généralement sur les sujets, alors ce sont des sujets extrêmement vastes, parfois ça donne un peu le tournis, tout ce qu'il y a à apprendre sur tous les sujets de la catastrophe environnementale en cours, qui ne se limite pas uniquement à la problématique énergie-climat. Moi ce que j'ai fait c'est de me renseigner plus particulièrement sur certains sujets, impact environnementaux des technologies numériques et semi-conducteurs, qui est le domaine que je connais mieux, et puis plus généralement justement ce dont je parle aujourd'hui sur... le positionnement de l'institution et des communautés de recherche par rapport à cette problématique. Donc pour ça, il faut se former. Donc par exemple, je suis allé à un séminaire qui avait été organisé à Paris-Saclay en mai 2023, « Sciences fondamentales et développement soutenable, que faudrait-il changer dans nos recherches ?» On trouve toutes les vidéos sur Internet, donc c'est un séminaire qui était très intéressant. Le document de prospective scientifique de l'INP, auquel certains et certaines d'entre vous ont participé, intégrer les enjeux environnementaux de la recherche scientifique. J'ai trouvé ce travail remarquable, d'abord que ce soit sponsorisé par l'institution, et puis ensuite le document de synthèse qui est sorti, qui est vraiment très intéressant. Il y a aussi les ateliers Sens, j'en ai fait un, je crois que donc ça a commencé à Néel, qui a été lancé par l'INRIA, qui sont des ateliers de réflexion justement sur le métier de la recherche et puis le contexte actuel de catastrophe environnementale. Donc quand on parle de recherche et transition écologique, une façon, une grille de lecture, c'est d'avoir deux volets sur les pratiques de recherche, et puis sur les finalités, et je rajoute l'éthique de la recherche dans les temps actuels. Donc pratique de la recherche avec tout ce qui est bilan carbone, diminution de l'impact carbone environnemental, méthodologie labo 1.5, etc. J'y reviendrai. Donc en général, le fonctionnement de la recherche, et puis des indicateurs collectifs et individuels, pour voir si nos pratiques de recherche émettent plus ou moins un impact environnemental, plus ou moins fort, et si on peut réduire cet impact environnemental. Et puis ensuite, il y a plutôt tout ce qui touche aux finalités, l'objet de nos recherches, quelles recherches sont souhaitables dans un monde en contraction de ressources, quel type de recherche, est-ce qu'il faut faire aussi évaluer le type de recherche qu'on fait, donc j'y reviendrai, par exemple aller plus vers des points de vue interdisciplinaires et systémiques, et dans un monde qui va être en profonde mutation, quelle sera l'acceptabilité sociale et politique de la recherche. Donc, les pratiques de recherche, ça va être essentiellement le comment on fait de la recherche, et puis finalité éthique de recherche, finalement, pourquoi on fait de la recherche. Voilà. Et donc, une autre façon de voir les choses, donc on voit aussi dans d'autres pans de l'activité économique, hein, ça va être les volets atténuation, donc moindre impact, et puis adaptation, s'adapter à la nouvelle situation. Alors, une façon que j'ai de présenter les choses, alors qui est très subjective et évidemment très critiquable, c'est de faire une sorte de typologie de la recherche. Au passage, quand j'ai dit d'où je parle, je suis aussi chercheur en physique, donc je connais bien la recherche en sciences naturelles, donc ça va être typiquement physique, chimie, biologie, je sais ce que c'est. SHS, je commence à m'y intéresser, mais c'est des recherches un peu différentes. Donc vous verrez que je parle quand même plutôt des recherches en sciences naturelles et un peu plus de la recherche que je connais mieux, la recherche technologique, y compris la recherche fondamentale pour les technologies. Donc dans la typologie de la recherche, on peut avoir la science du diagnostic environnemental, hein, donc toutes les personnes qui vont mesurer les émissions de CO2, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le réchauffement global, mais également les impacts sur la biodiversité, etc., etc. Donc ça, en un sens, on peut considérer que c'est très important, que c'est même essentiel, et donc on pourrait dire que c'est une recherche qu'il faut véritablement sanctuariser. Par exemple. Après, il y a la science pour la connaissance pure, donc la science qui n'est pas utilitariste, gens qui vont faire des maths qui, a priori, ne servent à rien, étudier les trous noirs, faire de la physique des hautes énergies pour étudier je ne sais quelle particule, etc. Alors là, il y a des débats dans la communauté. Vous allez avoir des gens qui vont dire ben ça, c'est sans limite, c'est même l'objet premier de la recherche, c'est-à-dire qu'il faut développer de la connaissance pour la connaissance. La question qui se pose, c'est aussi que ces recherches, parfois, vont avoir un impact environnemental fort. Donc on peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est sans limite, est-ce que vraiment il faut continuer dans la façon qu'on a eue de faire ce type de recherche? Alors pas toutes, mais typiquement si on prend la physique des particules, des hautes énergies, donc vous connaissez le LHC au CERN à Genève, hein, qui est en fonctionnement depuis 2008, et qui a un rayon de 27 km et qui consomme 1,3 TWh par an. C'est quand même un tiers de la consommation électrique du canton de Genève, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc, le LHC est prévu pour avoir une durée de vie de 20 ans, à peu près, donc théoriquement, il est en fin de vie dans quelques années. Et donc, il y a déjà des plans pour faire le FCC, qui serait trois fois plus grand. Donc ça nécessite d'abord de le construire, donc c'est énormément de matière pour construire ce grand anneau de 100 km de diamètre. Et puis, ça nécessite, ça aura également une consommation électrique trois fois plus importante, donc de l'ordre de 4 TWh par an. Et donc, dans un monde où on va vers une électrification de plus en plus des usages, donc une compétition des usages pour l'utilisation de l'électricité, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien raisonnable? Ou en tout cas, quel est le cadre démocratique dans lequel on discute ça? Il n'y a pas longtemps, il y a une tribune dans le Monde d'élus locaux qui posait justement cette question. Comment on se pose la question de le faire ou pas. Après, il y a les sciences de la solution. Alors, solution à quel problème, ça c'est tout un débat, mais typiquement, voilà, électrifier le monde, les énergies renouvelables, la voiture électrique, l'avion hydrogène pour ceux qui pensent que c'est une bonne idée, etc. Donc là, on a tout un pan de recherche qui va vouloir donc décarboner l'économie et avec une promesse finalement de peu impacter nos modes de vie, c'est-à-dire qu'on pourra continuer à vivre comme avant, mais avec une économie et des usages qui seront globalement très électrifiés et décarbonés. Alors quand on parle de ces sciences de la solution, on se pose tout de suite la question des usages, des effets rebonds, et puis de ce que j'appelle la réflexion de silo, c'est-à-dire que ce qui peut arriver, c'est que quand on a une vision un peu étroite de ce qu'on fait, et c'est souvent ce qu'on fait quand on est un ultra spécialiste de sa recherche, c'est important d'avoir des ultra spécialistes, eh bien on va se dire je résous un problème, ok, on résout un problème, on ne voit pas forcément qu'on en crée 5 ou 6 en plus à côté dans des domaines qu'on ne regarde pas et qu'on ne maîtrise pas bien. Il y a un secteur dont je pense qu'il est assez particulier, c'est le secteur biosanté-médecine. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très facile de discuter en général, c'est-à-dire qui serait contre de développer des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements pour des infections qu'on ne sait pas traiter, guérir les cancers, etc., etc. Donc il y a un peu cette idée que ce serait une science aussi sans limite, ou en tout cas uniquement limitée par les moyens financiers qu'on y mettrait. J'y reviendrai aussi. Il y a aussi la question de l'adaptation au passage de ces de l'adaptation de la médecine au changement climatique. Il y a de plus en plus une communauté de recherche qui regarde ça, c'est-à-dire comment pourra-t-on se soigner dans un monde qui est en train de se décarboner et qui est en, de plus en plus en contraction de ressources. Et puis finalement, il y a les sciences que j'appelle du techno-push. Donc ça, c'est la science. Comme on peut le faire, alors on le fait. Okay ? Et avec cette fameuse fear of missing out, donc la peur de ne pas y être, si les Chinois et les Américains le font, est-ce qu'on peut se permettre que l'Europe n'y aille pas massivement ? Donc ça, c'est des sujets qui sont très à la mode, dont vous entendez beaucoup parler. L'intelligence artificielle, les techno-quantiques, le métaverse, l'Internet des objets, la 6G, etc., etc. Donc en fait, puisqu'on peut le faire, on le fait. Et puis après, il y a des roadmaps industriels. Et on va essayer de créer finalement les besoins qui n'existent pas encore, par définition, parce que ce sont des nouvelles technologies, pour accompagner le déploiement de ces nouvelles technologies. Ce qui est très intéressant quand on regarde les personnes qui vont promouvoir, alors pour des intérêts industriels ou des raisons un peu idéologiques personnelles, promouvoir ces nouvelles technologies, c'est que souvent, ils vont se réclamer à la fois de ces fameuses sciences de la solution, donc typiquement avec l'IA, vous allez pouvoir optimiser des procédés industriels, vous allez pouvoir aussi optimiser le fonctionnement des bâtiments pour qu'on les chauffe mieux et au bon moment, etc., etc. Pareil avec l'Internet des objets, on va mettre des capteurs partout qui vont nous permettre d'optimiser toujours nos consommations énergétiques. Également dans le secteur de la médecine. Alors ça, c'est frappant, toutes ces nouvelles technologies vont toutes se réclamer de la médecine, bon, parce que tout le monde aime la médecine, tout le monde a envie que tout le monde puisse se soigner mieux. Donc pour l'IA, et c'est vrai, on peut mieux détecter plus précocement certains cancers qui échapperaient à juste une analyse de l'œil humain. Les techno-quantiques vous promettent des nouveaux médicaments. Le métaverse vous promet des opérations à distance, que les chirurgiens puissent s'entraîner dans le métaverse pour être meilleurs, etc. Etc. Donc, maintenant, si je bascule sur le volet atténuation, donc des pratiques de recherche, donc typiquement ce qu'on va appeler bilan carbone, donc l'idée c'est de mesurer pour pouvoir piloter, donc voir où on en est, puis ensuite voir si on peut se mettre sur une trajectoire de décroissance, avec la question également, est-ce que la recherche, puisque c'est nous qui disons attention, il faut qu'on diminue notre empreinte carbone, est-ce qu'on a vocation à être exemplaire ? Alors ça, vaste débat, mais je dirais qu'on a au moins vocation à faire notre part des choses comme communauté professionnelle. Donc je vais aller assez rapidement, hein, je ne vais pas faire un séminaire sur les méthodes de bilan carbone. Il y en a plusieurs, typiquement Labo 1.5 qui est quelque chose d'assez remarquable, hein, puisque c'est parti de la base, ça s'est structuré, finalement ça a été endossé par l'institution et ça fait un travail tout à fait remarquable. Il y a aussi les méthodes ADEME. C'est pas très important quand on fait des bilans Labo 1.5 ou ADEME, finalement on tombe à peu près sur la même chose. Et elles ont toutes elles sont toutes imparfaites, monocritères. Globalement, on va transformer des euros dépensés dans tel ou tel type de secteur en équivalent CO2. C'est évidemment mieux que rien. L'idée, c'est pas de dire on fait une mesure parfaite, mais c'est de dire bon, on a une méthode pour mesurer les choses et voir comment on peut diminuer notre impact. Voilà. Vous pouvez retrouver ce papier hein, qu'on trouve sur Bjorksi, je ne sais pas comment on prononce ça, et donc qui globalement dit hein, que tous les laboratoires qui font à peu près le même type de recherche vont avoir la même typologie de bilan carbone, hein, donc beaucoup les achats, et puis derrière viennent les déplacements, les infrastructures, chauffage, électricité, etc. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, vaste débat qu'on peut avoir entre nous dans les laboratoires. Il y a l'aspect geste individuel. Alors c'est comme dans tous les pans de la société, hein, c'est une portée limitée, mais en un sens ça a aussi un aspect important, parce que quand on commence à voir plusieurs personnes qui commencent à faire des gestes individuels, qui chacun va être une goutte d'eau. Et globalement, ça fait aussi évoluer les cultures collectives, donc les cultures de groupe. Un point important sur les gestes individuels, c'est que les contextes individuels ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sensibilisé de la même manière à ces enjeux. Et puis, on ne voit pas forcément les choses de la même manière quand on est en début de carrière, quand on est en milieu ou quand on est en fin de carrière. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et avec les risques de polarisation qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que si, quand on commence à discuter de ça, on ne s'entend pas, on n'arrive pas, on n'a pas la bonne méthode finalement pour aborder ces sujets, donc finalement il y a une scission entre les gens vertueux qui disent « moi je vais limiter mon empreinte carbone » et puis ceux qui finalement se sont sentis un peu agressés et vont dire « ben non, moi je continue mon métier comme avant parce que c'est important de le faire comme je l'entends ben, », évidemment collectivement on n'avance pas. Un point qui est important, c'est que dans la pratique de nos métiers, il y a une injonction paradoxale, et ça psychologiquement c'est toujours très douloureux, les injonctions paradoxales, c'est que globalement on est dans une communauté qui valorise encore les carrières individuelles et à forte empreinte carbone. C'est-à-dire que globalement vous voulez avoir une carrière qui marche bien, vous avez intérêt à avoir des gros contrats avec beaucoup d'argent, vous allez acheter des tas de choses, vous allez en conférence invitée un peu partout dans le monde, etc., etc. Au niveau des laboratoires, alors si on prend justement les impacts les plus forts, hein, qui sont au niveau des achats, alors comment est-ce qu'on limite les achats? Alors on peut réfléchir à des mutualisations, par exemple. Pareil, c'est pas très favorisé par notre système de recherche. Ça peut être plus simple d'acheter un équipement neuf qu'on va mettre dans son labo, plutôt que de payer régulièrement des missions un peu longues pour aller faire les mêmes manips dans un labo un peu loin qui a la même manip et qui nous accueille. Bon, plus évidemment la gestion personnelle, aller faire des manips un peu loin pendant quelques temps, qui n'est pas toujours facile à gérer. L'aspect maintenant, seconde main, investissement durable. Alors là, c'est pareil, c'est bien, mais notre système administratif ne favorise pas forcément cela, hein, d'acheter de la seconde main, etc. Si on veut faire la maintenance, il faut avoir les personnels, qui ont les compétences et le temps pour le faire. Et ça, pareil, globalement, on n'est pas toujours très bien gréé pour cela. Voilà. Après, donc, je ne reviens pas sur les infrastructures, hein, isoler nos bâtiments, etc. On sait qu'on a beaucoup de bâtiments dans le système de recherche qui sont assez anciens, pas très bien isolés. Donc tout ça, ça a un coût, ça demande du temps. Et en plus, le truc un peu paradoxal, c'est que dans notre comptabilité carbone, comme on l'a fait actuellement, si vous faites des gros travaux en 2025, 2026, 2027, vous allez avoir un bilan carbone déplorable parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent et du coup ça va vous faire un mauvais bilan carbone, même si à terme ce sera vertueux parce que vous avez isolé vos bâtiments. Donc il y a cette question de l'amortissement du bilan carbone qui dans la comptabilité qui pourrait être mieux gérée. Voilà. Je passe pas sur les transports, hein, source de grandes discussions, le train, l'avion, aller loin, pas loin, etc. Ça chacun aura son point de vue là-dessus. Finalement, si on regarde de manière plus large, hein, donc au niveau politique nationale ou européenne de recherche, ben comme je disais, hein, les indicateurs de réussite, donc ceux qui vont favoriser les carrières, aussi l'obtention de projets, etc., sont plutôt des indicateurs qui n'invitent pas à la sobriété. Donc la question, c'est comment on va pouvoir inciter aux comportements sobres et valoriser les comportements sobres. Alors il y a déjà des avances dessus, par exemple le comité d'éthique du CNRS a émis un avis en disant qu'il fallait par exemple, valoriser les personnes qui s'impliquent dans les réductions de l'empreinte carbone dans leur laboratoire, etc. Puis globalement, un écosystème international qui est quand même très basé sur la compétition. Et encore une fois, on a une culture globale, hein, ce n'est pas que nos employeurs, etc. Culture de communauté qui valorise beaucoup les gens qui se déplacent, qui ont des gros labos, qui ont des équipements extrêmement récents, extrêmement chers, etc. En un sens, à tous les niveaux, on peut dire qu'il y a des freins culturels, et ça, les freins culturels, on le sait, c'est des choses qui évoluent pas très vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, on sait bien que ça évolue pas très vite. Puis on a aussi des freins économiques et réglementaires. Ça, on pourrait se dire qu'on pourrait les faire évoluer plus rapidement pour avoir au moins des pratiques de recherche qui vont valoriser la sobriété. Un point super important, c'est que les premiers pourcents sont les plus faciles. C'est-à-dire que si on se dit, pendant les 3 années à venir, il faut baisser de 7% par an notre empreinte carbone, par exemple. Ça va être difficile, ça va être douloureux, il y aura des débats pas simples entre collègues, mais probablement on y arrivera. On va peut-être empêcher certains d'aller en conférence au Japon, en Australie. On va peut-être ne pas acheter un équipement neuf et puis faire autre chose. Voilà. Donc ce ne sera pas facile, mais on y arrivera. Par contre, s'il faut faire ça à 7% pendant 12 ou 15 ans par an, là, on voit tout de suite qu'on arrive vers un changement total de métier, en fait. C'est-à-dire que là, l'aspect pratique de recherche va rejoindre l'aspect finalité de la recherche. C'est-à-dire qu'une en décembre, là, il y a Pablo Jensen qui est venu faire un séminaire à l'IBS. Il disait une façon de voir les choses, de te dire comment je réduis, c'est de te dire comment j'imagine un métier de recherche en physique, par exemple, à 2 tonnes par an. Et là, tout de suite, quand on se pose des choses comme ça, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on s'aperçoit que nos métiers sont pas, tels qu'on les pratique actuellement, ne sont pas compatibles avec ces objectifs. Donc, ce qui pose alors là la question, est-ce qu'on est dans une transition? Alors, ce mot de transition, il est parfois un peu trompeur. Quand on est physicien, ça fait un peu penser à un truc transition adiabatique. Hein. On électrise un petit peu, on a des voitures à électrique, et puis finalement, on ne change pas nos modes d'organisation collective. Il y en a qui préfèrent bifurcation ou transformation en disant, et y compris pour nos métiers, on va vers quand même un changement important de nos pratiques et de la façon dont on va considérer nos métiers. Juste pour terminer hein, sur cet aspect atténuation, quand on regarde donc au niveau mondial les émissions annuelles en gigatonnes de CO2, l'évolution jusqu'à maintenant, elle est là. Les accords de Paris sur lesquels tout le monde s'est collectivement engagé, c'est cette espèce de dégringolade spectaculaire. Donc on voit à quel point, tant au niveau, à n'importe quelle échelle, à quel point ça va être quelque chose de difficile et donc qui engage quand même des transformations profondes de nos sociétés. Je vous mets cette petite... Vous pouvez retrouver mes slides, donc je les enverrai à qui veut. C'est un clip un petit peu humoristique, mais en un sens qui décrit bien ces questions de trajectoire et de promesses vers 2050 qui vont être quand même compliquées à tenir. Alors, dans Labo 1.5, donc il y a la méthodologie bilan carbone, mais il y a quelques labos pilotes qui sont mis sur des trajectoires de décarbonation. Donc là, c'est-à-dire passer l'action, pas juste mesurer, mais se mettre sur des trajectoires de décarbonation. Donc, par exemple, il y a le labo Maillage, hein, qui est un labo INRAE de Matinfo pour la génomique. On peut trouver sur HAL tout un document hein, qui décrit comment ils ont procédé pour construire différents scénarios, plus ou moins ambitieux, comment consulter les personnes, comment voter pour s'engager sur différents scénarios. Et finalement, donc là, ils sont engagés à se mettre sur un scénario de réduction de 40% de leur empreinte carbone en quelques années. Et puis je vous signale, donc, dans le cadre hein, du séminaire qui avait eu lieu à Paris-Saclay en mai 2023, cet exposé que vous pouvez trouver sur Internet, là, qui s'appelle de Anne-Laure Ligoza, qui est très engagée à Labo 1.5. Sur justement le changement des pratiques de recherche liées à l'atténuation de l'impact environnemental de nos pratiques. Alors, si je peux me permettre quelques préconisations qui sont évidemment très discutables et très subjectives, c'est dans nos communautés déjà sensibiliser et former aux enjeux environnementaux au sens large. Mon expérience, c'est que finalement, même si on est une communauté de recherche, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas tant que ça formées. Donc la moindre des choses, ce soit on est quand même des scientifiques, soit tout ce qu'on est un regard un petit peu objectif sur le consensus en cours. Donc par exemple, on peut noter que Paris-Saclay a décidé de former absolument tous ses personnels, donc 17 000 personnes, d'avoir une formation de base qui soit la même pour tout le monde et que tout le monde doit faire pour que tout le monde ait les mêmes infos sur ces questions environnementales. Partage des bonnes pratiques, donc ça participe de notre évolution culturelle. Donc quand on fait des choses pour faire des atténuations, c'est bien d'en parler. Alors d'en parler, pas forcément, si on est trop prescriptif en disant il faut faire ça, souvent ça va braquer certaines personnes et ça ne fait pas évoluer les choses. Donc il faut aussi arriver à ce que ça infuse doucement, alors parfois trop doucement, et que finalement cette culture de l'atténuation carbone soit aussi dans nos communautés, et puis évidemment des évolutions administratives pour ne pas, si ce n'est pas favoriser, mais au moins ne pas décourager les comportements à viser de sobriété environnementale. Okay. Savoir avoir des discussions collectives, donc comme j'ai dit, sans polariser, hein, parce que si finalement on a des scissions entre les gens qui s'autoproclament très vertueux, puis les autres qui n'en ont rien à faire, on ne progresse pas collectivement. Donc ça, c'est un souci important. Et puis, finalement, ce qui devrait être une partie importante de notre travail, Savoir penser le temps long, alors parfois c'est anxiogène hein, quand on voit la masse des défis qui s'offrent à nous, mais en un sens, c'est déjà un enjeu parce que dans la recherche, on va faire des investissements à 30, 40 ans. On embauche des jeunes qui vont prendre leur retraite vers 2065. Donc d'ici là, on sera dans un autre monde. Donc la question finalement de se poser, cette question de savoir comment on imagine notre système de recherche, sa position dans la société, horizon 2035, 2040, 2050, etc. C'est intéressant. Donc, est-ce qu'on saurait faire dans nos communautés ce que j'appelle de la sociopolitique fiction, c'est-à-dire s'imaginer la recherche dans une société en 2035, en 2040, donc avec une utilisation plus restreinte de l'énergie et d'autres ressources, un réchauffement climatique qui sera là, qui sera plus fort que ce qu'on a actuellement. Et voilà. Et, alors, c'est intéressant parce que cet exercice, il a par exemple été fait dans les armées françaises. Ils ont lancé un projet qui s'appelle Red Team. Je vous encourage à aller regarder ce qu'ils ont fait. Et donc, ils sont projetés. Parce que les armées, c'est pareil. Ils ont ce souci d'investissement à long terme, puis de se demander comment leurs pratiques vont être affectées en général par le changement climatique et puis toutes ces répercussions géopolitiques, etc. Dans la recherche, on pourrait faire le même genre d'exercice. Alors maintenant, je passe sur le volet adaptation. Donc le volet adaptation, c'est finalement la question quelle recherche dans un monde en contraction énergétique, en dérèglement climatique et en pénurie de ressources. Comme ça, ce n'est pas très rigolo. Et alors là, quand on discute avec les collègues, il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc par exemple, les gens qu'on va peut-être appeler technosolutionnistes, qui sont d'ailleurs très actifs pour promouvoir ce type de vision, que l'innovation, finalement, est la clé pour s'en sortir. Donc, il faut absolument sanctuariser les recherches, en particulier les recherches de ce qu'on appelle la solution, hein, donc tout ce qui va être énergie renouvelable, électrification, batterie, etc. etc. Quoi qu'il en coûte. Donc, il y en a qui vont dire, non, mais il faut diminuer l'empreinte carbone partout, mais pas de la recherche, parce que la recherche, au contraire, il faut la renforcer, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir. Okay. A contrario, il y en a d'autres qui vont dire, attendez, ça fait 70 ans qu'on fait de la recherche, qu'on fait des progrès technologiques considérables, et en même temps, alors malgré ça, voire à cause de ça, on fonce collectivement dans le mur. Donc finalement, ce n'est pas plus de recherche qu'il nous faut, mais toute une question sur les usages des technologies, etc., qui doit être préalable, en tout cas se faire en même temps. Il y a la question de la compétitivité économique, voire de la souveraineté géopolitique, qui est soulevée, et il ne faut pas la balayer d'un revers de la main, parce que c'est des choses importantes. En un sens, si on peut faire de la recherche en France, c'est aussi parce qu'il y a des impôts qui sont versés, et l'État, donc globalement la nation, qui décide de financer la recherche. Et puis l'aspect souveraineté, hein, dans un monde qui est déjà en tension géopolitique forte, on ne s'attend pas à ce que ça aille tellement mieux avec les effets du changement climatique, d'avoir finalement une certaine souveraineté, y compris une souveraineté technologique, c'est quelque chose qui peut aussi être important. Donc, comme je disais, il y a la question des usages, réglementation, et finalement une question, est-ce que c'est aussi à nous, communauté de recherche, de s'intéresser à cette question des usages et de la réglementation. Alors là-dessus, il y a des avis très divergents. Certaines personnes qui vont vous dire, maintenant, nous, notre métier, c'est de bien faire de la recherche, puis après, la société en fait ce qu'elle en fait. Puis d'autres qui vont dire, ben non, on a... Alors je reviendrai sur cette question de la responsabilité par rapport à l'usage des recherches. Deux choses qui, moi, me permettent absolument essentielles de garder dans nos pratiques professionnelles, c'est l'aspect enseignement et formation, parce que de toute façon, d'avoir globalement une population qui est bien formée, éventuellement on peut rêver des médias et un monde politique qui soit bien formé aux enjeux scientifiques, ça reste quelque chose de crucial, parce que ça reste un socle après des discussions démocratiques qu'on doit avoir sur ces sujets. Et puis également que la communauté de recherche, et j'y reviendrai, si elle doit garder quelque chose, c'est une éthique et une impartialité. Encore une fois, je salue le travail du comité d'éthique du CNRS qui rend régulièrement des avis qui pour moi sont vraiment très importants, parce que ça nous rappelle des principes fondamentaux de nos pratiques professionnelles. Okay. Alors, Sur cette question de la responsabilité par rapport aux usages, je voulais faire un point sur ce que j'appelle le paradoxe de la recherche fondamentale. Quand vous soumettez actuellement des projets, ou même quand vous faites de la com sur vos recherches, etc., il y a globalement une forte incitation diffuse à mettre en avant les conséquences socio-économiques positives et les bons cas d'usage de nos recherches. Donc souvent, on va avoir dans les projets, vous allez avoir impact environnemental, impact sociétal, et vous êtes incité à dire que vos recherches contribuent très positivement au progrès de la société. Donc ça postule finalement qu'on a une certaine responsabilité par rapport aux conséquences de nos travaux de recherche, puisqu'on dit ça va servir à cela et ce sera bien. Et puis en même temps, quand on veut justifier en particulier la recherche fondamentale, eh bien on va souvent la justifier par la perspective d'applications qui sont inattendues. On fait de la recherche sur quelque chose qui a priori n'a pas d'application, et puis tout d'un coup sort une application qui va se diffuser, qui va changer la face du monde. Donc l'exemple iconique, c'est le laser. Au début, quand il y a les recherches sur le laser, c'est des questions de mécanique quantique un petit peu poussées. On se demande, est-ce qu'on peut mettre des tas de photons dans le même état quantique? Et puis finalement, on produit les premiers faisceaux laser et on s'aperçoit que ça offre des champs d'applications qui sont extrêmement larges. Et maintenant, le laser est omniprésent dans les technologies de ma vie, au premier rang desquelles Internet. Si on ne sait pas injecter des lasers dans une fibre optique, il n'y a pas le réseau Internet. Et donc ça, s'il y a des applications complètement inattendues auxquelles on ne s'attendait pas, et qu'on justifie la recherche fondamentale comme ça, au contraire, ça postule la totale irresponsabilité par rapport aux conséquences de nos travaux de recherche. Alors ça pose un souci parce qu'on a les deux en même temps, ces deux positions qui sont complètement antagonistes. Alors personnellement, je pense que ni l'une ni l'autre ne sont des bonnes façons de présenter les choses. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on parle des applications potentielles de nos recherches, en particulier quand on est en recherche fondamentale, donc les applications sont un peu loin, on va commencer à se poser aussi la question de la neutralité de nos recherches. Alors sur ce point, neutralité et impartialité, alors là je reprends quasiment texto des termes qui sont dans cette présentation de Stéphanie Ruffy, pareil, on trouve sur Internet, qui est une philosophe des sciences, qui a longtemps travaillé à Grenoble d'ailleurs. Et donc sur la distinction impartialité et neutralité, qui moi me paraît absolument essentielle quand on réfléchit à ces pratiques de recherche. L'impartialité, ce sont les raisons pour accepter un résultat d'hypothèse. Donc en fait, ce sont nos pratiques de recherche qui font qu'on va réussir à dialoguer dans nos communautés et arriver à des consensus. C'est la démarche scientifique qui est quelque chose qui reste historiquement situé. On ne fait pas de la recherche pareille au XVIIe, au XIXe, au XXIe siècle, mais globalement, dans un contexte particulier, on a des pratiques validées par la communauté de recherche, et c'est important d'avoir ces pratiques pour que la science se fasse de manière intègre et crédible. Et puis après, il y a la neutralité. Les neutralités, ça concerne plutôt les implications, les conséquences d'un choix ou d'une décision. Donc typiquement, pour illustrer cette différence entre impartialité et neutralité, Stéphanie Ruffy prend l'exemple des juges. On existe des juges qui, l'impartialité, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas mettre de partialité subjective, personnelle, dans la façon dont ils vont rendre les jugements, mais par contre, leurs décisions ne sont absolument pas neutres, puisque ça va engager le devenir d'individus, de la société, etc. Donc, par définition, quasiment, la recherche, l'enseignement devrait être idéalement impartiaux, donc se baser sur des méthodes communes d'investigation, d'enseignement du consensus scientifique, etc. Et la question, c'est est-ce que la science peut se réclamer d'une neutralité? Donc, une fois qu'on a présenté les choses comme ça, la réponse est quasiment dans la question. Donc, des exemples de non-neutralité, financer certains projets de recherche, ou corollaire, ne pas financer certains projets de recherche, c'est complètement non neutre. Donc on a une organisation de la recherche avec l'ANR, avec les PEPR, avec des projets européens, etc. Tout ça, et certaines recherches qui vont être plutôt favorisées, financées, d'autres moins. Et donc ça, c'est absolument non neutre. Faire un partenariat ou pas avec un industriel, c'est non neutre. Communiquer de manière optimiste sur des applications potentielles, en général, d'ailleurs, c'est pas notre métier, donc on a vite fait de raconter des bêtises sur sa recherche et d'éventuelles conséquences socio-économiques, c'est complètement non neutre. Donc, alors, on peut le faire, mais par contre, ce n'est pas la même chose que d'annoncer un résultat scientifique. Et c'est très important de faire la différence entre les deux, le moment où on présente un résultat obtenu avec des méthodes qui se réclament d'une impartialité, des moments où on va faire des commentaires sur sa recherche ou la recherche des autres, qui sont des points de vue non neutres. C'est pas la même chose. Présenter un séminaire comme je le fais aujourd'hui, c'est évidemment non neutre, et c'est pas un souci. Il y a le cas particulier de la recherche technologique, alors dont je parle parce que je connais bien, et puis à Grenoble on en a beaucoup, hein, la mise en place de roadmap industriels, donc les consortiums d'industriels qui se mettent ensemble pour dire, ben voilà, sur tel sujet ça va se passer de telle manière, par exemple sur la 6G, voilà comment ça va se passer, comment on va déployer la 6G, c'est évidemment non neutre, ça implique des grands investissements, et une question qu'on peut se poser, c'est à quel moment on met du processus processus démocratique dans la définition de ces roadmaps qui impactent fortement nos vies. Ok, je ne sais pas combien de temps il me reste, on le prend déjà. Donc, je crois que c'est mon dernier slide. Donc, sur le volet adaptation, je dirais que ça pose donc finalement quelles pratiques et finalités de recherche dans un monde en mutation profonde. Ça pose des questions complexes, ça ne veut pas dire qu'il faut les éluder. Après tout, c'est aussi notre métier de nous poser des questions complexe. Il y a cette question de l'économie de la promesse, c'est-à-dire la science et les technologies vont permettre de résoudre les problèmes et finalement qu'on garde peu ou prou notre train de vie et nos modes de vie malgré la transition énergétique ou écologique. Et puis à mettre en balance avec la crédibilité de la science et de la recherche, c'est-à-dire que si on est trop dans cette économie de la promesse, c'est-à-dire regardez les technologies vont nous apporter tout ce qu'il faut pour qu'on garde notre bien-être malgré ces transitions. Si ces promesses ne se réalisent pas, eh bien, il va y avoir probablement un problème de crédibilité du monde scientifique en général qui n'aura pas réalisé, qui aura promis des choses que finalement il ne peut pas tenir. Et puis, avec cette question qui est très importante, est-ce que finalement la promesse technologique n'est pas aussi un frein aux transformations socio-économiques que collectivement on n'a pas très envie de les faire parce que ça engage nos modes collectifs de vie. Donc est-ce que c'est pas plus simple de se dire bon ben ok, l'avion à hydrogène nous permettra de continuer de passer des vacances à l'autre bout du monde et puis tout va bien se passer, au lieu de se dire ben non, globalement voilà, il y aura moins d'avions dans le futur parce qu'on est engagé sur une trajectoire de diminution de nos émissions. Donc, typiquement pour la France, qui est un pays très dépendant du tourisme, comment on se pose la question du tourisme et de notre économie dans les 20-30 années qui viennent, en anticipant donc une diminution du trafic aérien, par exemple. Okay. Pour revenir au sujet de la recherche, hein, est-ce qu'on sait se poser la question et à quel niveau, quelles recherches sanctuarisées, quelles recherches abandonnées, dans un monde à contraction énergétique, dans tous les pans de la société, il y a des choses qu'on fait maintenant, qu'on ne fera plus tard. Est-ce que pour la recherche, on sait se poser ces questions? Est-ce qu'on a un bon cadre pour se poser ces questions? Est-ce qu'il y a également des nouveaux champs de recherche qui sont souhaitables? Donc, par exemple, les sciences interdisciplinaires de la soutenabilité. Je commençais en citant Valérie Masson-Delmotte qui disait qu'il faut arrêter de regarder les choses en silo, il faut regarder les choses de manière plus systémique. Ça, c'est un commentaire très large qu'elle a fait. On peut s'appliquer à la science. En science, on est en général, puis on a une science qui est structurée comme ça maintenant, d'ultra spécialistes qui vont regarder des silos, c'est comme ça qu'on est très bon dans un domaine de recherche. Est-ce qu'il ne faut pas également avoir au moins une partie de la recherche qui évolue vers des sciences beaucoup plus interdisciplinaires qui vont regarder les choses de manière systémique? L'UGA a une réflexion en cours très intéressante, hein, sur la création d'un institut interdisciplinaire, alors qui s'appelait au début transition, maintenant transformation écologique, et donc qui est là justement pour regarder ces questions de transformation écologique avec une vision interdisciplinaire. Quelle place pour les recherches dans les 30 ans à venir dans une société en transformation profonde? Donc, comment est-ce qu'on arbitre? Alors, c'est des questions qui se posaient déjà avant ces histoires de transition écologique, mais comment on arbitre entre pilotage politique de la recherche et autonomie académique? Comment on se pose ces questions? Alors, par exemple, je cite l'association Sciences Citoyennes, qui a un site web qui est bien fait, qui se pose ce genre de questions. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais c'est un cadre, par exemple, où on se pose ce genre de questions. Comment on gère finalement le choix des sujets et des financements de recherche Est-ce que c'est que du financement? Est-ce que du pilotage politique? Est-ce qu'on laisse une certaine autonomie au monde académique? Et est-ce que la société, dans son ensemble, d'un point de vue démocratique, a son mot à dire là-dessus? Probablement des questions qui vont se poser de manière de plus en plus, de plus en plus importante dans les années qui viennent. Et puis, globalement, pour nos communautés de recherche, est-ce que la réflexion sur les finalités de la recherche fait partie, à tout le monde ou pas à tout le monde, etc., de nos missions de recherche? Pour moi, c'est une question ouverte, à moi ouverte, de savoir si on doit avoir du temps et un cadre pour faire cela ou pas. Évidemment, la question financement public de la recherche versus financement privé. Dans ces questions, quand on regarde ces questions de transition, je parlais de technosolutionnisme, etc., il y a évidemment des enjeux économiques qui sont très importants, et la recherche travaille avec le monde économique, et c'est pas mal. Par contre, la question de l'indépendance de la recherche, donc toutes les questions là que je viens de poser, est-ce qu'on sait se les poser de manière indépendante, c'est une question importante, et plus on est financé par le privé, moins on est indépendant. Je citais au début les techniques biosanté médecine, ils connaissent bien le problème. La question qui s'est déjà posée à plusieurs reprises, c'est est-ce qu'on a encore des experts dans la recherche publique qui savent dire des choses typiquement sur la politique du médicament et qui ont zéro lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. On sait que c'est un problème parce que ça demande des moyens de financement public qui sont importants et qu'on ne met pas toujours. Voilà, je cite là par exemple un institut qui s'appelle Energy for Climate, hein, qui est quelque part à Paris, qui est beaucoup justement dans la science de la solution sur les questions énergétiques, etc. Et quand on regarde qui sont, alors évidemment du financement public, qui sont leurs financeurs privés, Total Energy, BNP Paribas, Fonds Ifkert pour le climat, Engie et EDF. Donc, alors on pensera ce qu'on veut de ces sponsors privés, mais de fait, on voit que il y a tout un tas d'entreprises comme ça qui vont financer cet institut. Okay. Et puis donc, finalement, quelles pratiques de recherche dans un monde soutenable, hein. On peut aussi dire que la recherche telle qu'on la pratique actuellement, en France, en Europe et dans le monde, c'est aussi une fille de la révolution industrielle et donc de toute l'énergie dont on bénéficie grâce aux énergies fossiles, et donc la question de savoir quel est le devenir et quelles sont les pratiques de recherche dans un monde soutenable, évidemment une question importante. Je dirais, et là c'est pour conclure, est-ce que dans nos pratiques de recherche, où on est tous très occupés, où la compétition dans le monde de la recherche est quelque chose de difficile en fait, hein, se maintenir à flot, arriver à bien publier, arriver à avoir ses projets, arriver à amener ses étudiants jusqu'au diplôme de thèse, etc. Tout ça, c'est très difficile. Est-ce qu'on a des lieux? Est-ce qu'on a des cadres? Parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Est-ce qu'on a le temps pour aborder collectivement ces questions et puis s'en saisir pour arriver à se projeter dans les 20-30 ans à venir? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et on peut...
Tu as présenté l'aspect soutenable. Est-ce qu'on pourrait faire aussi une collapsologie de la recherche?
Alors, donc collapsologie, hein, c'est toutes les questions de l'effondrement, hein, de dire que globalement, on ne va pas se mettre sur une bonne trajectoire, que les problèmes de pénurie énergétique, de réchauffement climatique, etc., vont faire qu'on va arriver dans un monde où on ne va pas réussir à maintenir nos structures socio-économiques telles qu'elles existent, et donc éventuellement y compris la recherche. Alors, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, collapsologie de la recherche. Hein. On voit déjà qu'on est en termes de financement, on est en tension. C'est compliqué. C'est difficile de se dire que ça va aller tellement mieux dans les années à venir, y compris parce que si on se met sur une... je ne vais pas rentrer sur tous les débats sur la décroissance, etc., mais on voit bien que si on se met sur une trajectoire carbone, d'impact carbone, décroissance, telle qu'on s'y est engagé dans les accords de Paris, eh bien, ça va probablement pas bien s'accorder avec une augmentation du financement public d'à peu près tout, y compris la recherche. Hein. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, collapsologie. Ce qui est intéressant, probablement de regarder, hein, d'un point de vue organisation collective et puis un peu sociologie de nos métiers, c'est ce qui peut se passer dans d'autres pays où ils ont eu des grosses difficultés à la fois de financement et puis également où il y a des contraintes politiques qui arrivent, qui sont fortes, et il ne faut pas exclure que ça arrive également dans notre pays. Donc, par exemple en Argentine, hein, actuellement, où tous les crédits de recherche sont en train d'être coupés massivement parce que l'État ne veut plus financer un minimum le service public. Et puis en plus, avec un gouvernement climato-sceptique, donc qui finalement ne se pose probablement pas les bonnes questions d'un point de vue scientifique. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, collapsologie de la recherche. Après, si comme certains l'annoncent, les sociétés occidentales, à un moment, s'écroulent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une décroissance maîtrisée, tout d'un coup on a des récessions extrêmement fortes, plus des phénomènes climatiques extrêmes auxquels on aura de plus en plus du mal à faire face. Il n'y a pas de raison que la recherche échappe au désastre, mais comme tout le reste, hein. La justice, l'éducation nationale, la santé, j'en passe des meilleurs.
Le lien entre sciences fondamentales et peut-être sciences appliquées, ou applications technologiques, etc. Et comme tu disais un peu, finalement, enfin un peu naïvement, on pourrait se dire, voilà, la science fondamentale est un peu protégée de ces questions-là, elle est un peu plus protégée, et puis la science appliquée, c'est elle qu'on doit vraiment revoir. Mais en fait, c'est pas aussi évident, il y a des liens entre les deux, elles se nourrissent. Et donc finalement, je me demandais si tu voyais un cadre ou dans quel contexte on peut se poser cette question-là de la séparation entre les deux, de leurs liens et de comment les modifier, en comprenant probablement leur interdépendance.
Alors d'abord, la limite n'est pas extrêmement nette, hein, entre sciences fondamentales et sciences appliquées. On voit bien, d'ailleurs, moi je suis chercheur au CEA, qui a vocation justement à faire le lien entre la science fondamentale et puis la science plus appliquée en lien avec les entreprises, etc. Donc on est sur un continuum. Le CNRS revendique de plus en plus que la science, une partie de la science fondamentale, se pose plus la question des applications, des partenariats industriels, etc. Donc la distinction n'est pas très forte. Et puis on voit bien aussi que dans nos systèmes de recherche, finalement, il y a 30 ans en arrière, dans un labo de recherche fondamentale, on faisait les sujets, alors il y a des sujets à la mode, etc. Mais on ne travaillait pas sur projet, donc on n'avait pas besoin, finalement, tant que ça, de dire ma recherche sert à ça. Maintenant, de plus en plus, on écrit des projets, et donc il y a de plus en plus un gros pan de la recherche, on a quelques-uns qui échappent encore probablement, mais qui vont devoir justifier par une sorte d'utilitarisme économique leur raison d'être. D'accord ? Donc, juste étudier des matériaux parce que c'est un nouveau matériau et c'est sympa et on est curieux, ça passe de moins en moins, donc il faut dire, il y aura peut-être telle application potentielle. Donc, ça, moi, je trouve ça un petit peu dangereux parce que ça nous incite à faire un marketing assez optimiste, et souvent pas très détaillé de nos recherches, en particulier en recherche fondamentale. Et là, pour le coup, on peut dire que ça risque de nuire à la crédibilité de la recherche. Parce que quand on passe son temps à promettre des tas de choses, et puis que finalement, ça va pas devenir pour des tas de raisons, il y a un moment, les gens vont pouvoir demander des comptes en disant, ben oui, vous nous avez promis ça, etc. Et puis finalement, c'est pas arrivé. Après, d'un point de vue du positionnement psychologique des personnes qui font de la recherche sur différents sujets, donc ça, c'est mon expérience personnelle, hein, de discuter avec différentes personnes qui font différents types de recherches. Quand on est en recherche fondamentale, souvent, on peut un peu plus se dégager des applications potentielles. Finalement, on se dit, voilà, moi, je fais de la recherche, c'est normal. Je suis dans une communauté de recherche où tout le monde fait un peu la même chose. J'ai ma place, je fais progresser la connaissance. Tout va bien, je fais bien mon métier. Donc, finalement, les applications qu'il pourrait y avoir ou pas, finalement, c'est pas mon problème. Quand on est en recherche plus appliquée, en recherche technologique, alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Typiquement, les gens qui bossent sur les batteries, sur le photovoltaïque, etc., vont assez facilement se convaincre que ce qu'ils font, c'est positif, parce qu'ils vont dans le sens de la transition écologique. Quand on travaille sur le métaverse, sur l'IoT, la 6G, etc., c'est parfois un peu plus compliqué. Encore une fois, ça dépend du positionnement, et là je ne pose pas de jugement, hein, du positionnement individuel des personnes, avec parfois une tentation, c'est de se dire, je parlais des fameuses roadmaps, hein, de toute façon il y a des roadmaps, donc ça va se passer de telle manière, donc, par exemple le déploiement de la 5G, ça va être comme ceci, avec une croissance exponentielle, hein, c'est ça qu'on a actuellement. Donc si je fais des composants qui sont un peu plus efficaces, ben finalement, il y a un déploiement qui est inéluctable, on prend ça comme donnée d'entrée, et donc tout ce que je fais pour atténuer l'impact de ce déploiement, ben c'est positif. Donc finalement, on arrive à s'en sortir comme ça pour dire qu'on a un impact vertueux.
Voilà. C'est par rapport à la partie incitation au niveau des financements à fournir des pistes d'impact que pourraient avoir les résultats de la recherche et qui effectivement sont généralement pas assez étayés parce que en tant que scientifique, en physique par exemple, on n'a pas les outils pour savoir déterminer quels vont être les impacts sociaux et environnementaux de son produit. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, notamment au niveau européen. Sur les financements européens, il y a de plus en plus ils demandent d'étayer justement les arguments qui sont avancés. Il y a des choses qui changent, ils demandent à ce qu'il y ait des acteurs impliqués au niveau plus sociologique et sociétal. Donc ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent lentement, qu'il y a des formations qui se mettent en place. On parlait tout à l'heure de dire que c'est important de se former aussi. J'ai l'impression qu'il y a des formations qui fleurissent un peu à droite à gauche. Mais ça pose beaucoup la question de la responsabilité des institutions à ce niveau-là, parce que en tant que personnel de recherche, on est face à des injonctions contradictoires, comme on disait, à faites de la science, de la recherche d'excellence, mais en même temps, on ne pollue pas trop, et discuter entre nous de savoir ce qu'on peut faire, c'est quand même limité. Et je trouve qu'il y a quand même une grosse responsabilité des institutions à prendre les choses en main et à proposer. Après, je trouve aussi qu'au niveau individuel, on a aussi la liberté et la capacité de faire remonter ces sujets vers les institutions. Mais que sans l'appui des institutions, ça va être compliqué d'avoir des actions collectives.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien d'en discuter entre nous. C'est bien aussi. Alors, il y a aussi l'effet bulle. Hein. C'est-à-dire quand on se retrouve comme ça, discuter entre nous, on va être sur des personnes quand même plutôt convaincues, plutôt qui pensent un peu la même chose, même s'il peut y avoir des divergences de point de vue. Et heureusement qu'on n'est pas monolithique, donc on peut avoir des débats là-dessus. Et puis, il va y avoir des tas de personnes qui, pour diverses raisons, ne vont pas s'intéresser à ces sujets, ou en tout cas vont les trouver gênants pour leur pratique professionnelle, leur carrière, ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect discussion. Et après, je suis parfaitement d'accord. Enfin, il y a un moment, effectivement, il y a des tas de choses qui ne bougeront que quand les institutions sont saisies. Et après, ce qu'on remarque, alors ça dépend aussi un peu des institutions de recherche, à quel niveau on le fait, mais c'est que quand il y a quand même comme ça des choses qui se structurent à la base, il y a un moment, ça va être repris par les institutions. C'est typiquement le cas de Labo 1.5, qui au début est une initiative de personnes qui se sont structurées, et puis après, le CNRS a sponsorisé en faisant un groupement de services, quelque chose comme ça, qui leur permet d'avoir une structure, des financements, etc. Voilà, après, quand on parle institutions nationales, institutions européennes, il y a toutes les questions du lobbying. Alors, c'est vrai qu'à l'Europe, voilà, il y a le Green Deal, dont on pense ce qu'on veut, mais dont on introduit, y compris dans l'Europe de la recherche, voilà, l'obligation de faire des analyses du cycle de vie quand on propose des nouvelles technologies. Effectivement, cet angle sociologique, etc. Donc ça c'est évidemment positif. Voilà. Après, il faut aussi voir que voilà, les gros financements européens, les gros financements nationaux, ils viennent aussi de stratégies de lobbying, beaucoup du monde privé, qui ont des capacités et des moyens pour faire lobbying qui sont importants. Et une chose qu'on peut déplorer, c'est que finalement, nos structures de recherche, avec des tas de gens qui savent beaucoup de choses, qui a éventuellement des convictions, mais au moins, sans même aller jusqu'à des convictions, savent dire le consensus scientifique de manière impartiale et étayée, se mettent pas forcément suffisamment en capacité de lobbying. Pour moi, ça devrait être un des rôles de l'institution de recherche. Alors, voilà, on parlait de neutralité, hein, pas de pousser en disant il faut absolument développer, etc., mais être sûr que les décideurs, au moins, on leur a pas raconté des cracks de manière justement biaisée parce qu'il y a des intérêts privés, et qu'on joue au moins le rôle de garde-fou là-dessus. Et je suis pas sûr qu'on le fasse, et je suis pas sûr qu'on se donne le moyen de le faire.
Est-ce que dans ta typologie, là, la recherche, il ne manque pas peut-être justement les sciences humaines et sociales, les sciences politiques, parce que c'est peut-être les vraies sciences de la solution par rapport à ce que tu dis.
Ouais. C'est une très bonne remarque d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire que tout ça, c'était extrêmement subjectif, critiquable et vu de ma fenêtre. Et de fait, je suis très sensible à ça, parce que de plus en plus, je regarde des travaux d'économie, de sociologie, d'histoire, des sciences et techniques, etc., qui me paraissent vraiment importants. Et effectivement, ces regards croisés sur un même sujet, ça me paraît essentiel, effectivement, pour aborder les sujets de manière plus systémique, être plus en capacité également de communiquer auprès du grand public. Alors, c'est des enjeux complexes, donc il faut aussi savoir bien communiquer, et puis également pour avoir une parole auprès du monde politique. Voilà. Donc ça me paraît très important. J'avais discuté justement là, ce fameux séminaire où je suis allé à Saclay avec Anouk Barberousse. Elle est directrice d'un institut de la transition à Paris, de Sorbonne Université, elle disait, voilà, la difficulté déjà, c'est d'avoir deux personnes qui viennent de silos disciplinaires différents et qui arrivent à se parler sans s'invalider mutuellement. Et déjà, si on arrive à faire ça, on est déjà très bien parti. Voilà. Parce qu'on a des cultures, parce que bah, typiquement quand on vient des sciences naturelles et qu'on lit des papiers de sociologie ou d'économie, des fois ça fait un peu bizarre sur les méthodes, sur les hypothèses, sur les façons de travailler. Voilà, en fait il faut s'acculturer tout simplement, s'écouter.
Si je peux juste rebondir là-dessus, il y a un campus qui s'est monté à Paris là-dessus, sur le campus de la transition, où justement c'est complètement interdisciplinaire, et ils se sont mis d'accord sur justement le fait qu'il y avait besoin de développer un langage commun quand on vient de disciplines différentes. Et ils ont produit, alors je ne sais pas exactement ce que ça vaut de mon petit regard à moi, mais en tout cas ils ont produit notamment des ouvrages. Il y a le manuel de la grande transition et après plein de petits manuels qui sont déclinés du point de vue de l'économie, du point de vue de la santé, qui complètent le manuel de la grande transition et les petits manuels qui sont plus spécifiques. Et du coup, il y a des initiatives comme ça qui existent, et oui, on s'accorde à dire pour que il y a un besoin d'un langage commun quand on parle de disciplines différentes. Mais je ne sais pas ce que vaut cette production.
Merci pour l'info.
En tout cas, si ça
intéresse. Je ne connaissais pas, mais oui, c'est intéressant.
Dans les différents workshops ou les sondages que j'ai pu voir passer sur ces questions-là, j'ai eu l'impression que les institutions étaient en attente d'idées ou de propositions de la base. Et que comme c'est un problème systémique et de la base, et qu'en attente que les institutions puissent agir sur ce système, et du coup, c'est bloqué. Comment on peut imaginer sortir de cette sorte de situation où tout le monde attend de l'autre ce qu'il fait?
Ouais, non, c'est un point super important, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a plein d'initiatives locales qui germent, de gens, alors des fois qui se connaissent, des fois qui se connaissent pas, etc. Je vois, moi, y compris au CEA, hein, j'essaie de connaître les gens dans différents centres, dans différentes directions opérationnelles, etc., qui font des choses. Il y en a que je connais, et puis de temps en temps, je découvre un truc, ça existe depuis 2 ans, et puis je savais pas, en fait. Donc, il y a déjà ça, c'est-à-dire... La base, c'est qui, comment on se structure. Des fois, il y a des structurations qui marchent bien, typiquement Labo 1.5 qui a réussi à fédérer pas mal de gens sur le territoire de différentes disciplines. Donc ça, c'est assez remarquable. Je pense que c'est aussi pour les gens qui ont lancé ça, un engagement personnel qui va très loin. C'est-à-dire, voilà, c'est quand même aussi une chose qu'ils font au début en plus de leur travail normal, on va dire. Et après, sur ce lien, globalement, en fait, sur ce sujet comme sur d'autres, c'est une vraie question de voir comment on fait remonter. Alors d'abord, que pensent les gens en général, en fait, est-ce qu'il y a un consensus, une vision, est-ce que tout le monde pense la même chose dans son coin, puis n'ose pas se le dire, ou ne se structure pas, ou est-ce que les gens ne sont pas du tout au même niveau de réflexion, ça c'est intéressant. Vous avez peut-être remarqué pendant l'exposé, je vous en dis, quand je discute avec des gens, quand je, etc., c'est quelque chose d'extrêmement personnel et très situé. Ça pourrait être intéressant, typiquement, de faire un travail de sociologie où on fait un truc vraiment sérieux et on parle aux gens dans nos communautés de recherche et on voit comment ils se positionnent, typiquement, par rapport à ces problèmes de transition personnellement et comment ils souhaiteraient se positionner dans leur activité professionnelle. Et après, ça, faire remonter, enfin, faire remonter à d'avoir des bons canaux de représentativité pour avoir un endroit, parce qu'évidemment on ne peut pas discuter à 300 000, donc d'avoir un endroit où il y a des personnes représentatives qui abordent les sujets et qui arrivent à avancer. Là je parlais par exemple des freins réglementaires, qui sont des trucs un peu bêtes, là, quand on parle des transports, on va dire, bah oui, mais à un moment l'avion c'est beaucoup moins cher et ça évite une nuit d'hôtel. Donc finalement si on est juste sur un critère prix, prendre le train et passer une nuit à l'hôtel pour aller à sa réunion à Lille, eh ben finalement, c'est pas favorisé par le système. Voilà, où est-ce qu'on discute de ça de manière efficace pour prendre les problèmes à bras-le-corps dont tout le monde voit, où est-ce qu'ils sont et quelles solutions qu'on peut envisager. C'est un problème un peu récurrent de nos institutions, qui sont des grosses institutions pas très agiles. Voilà. Mais je suis d'accord que c'est un vrai souci. Après, alors, ça dépend des institutions de recherche. Voilà, par exemple, j'ai trouvé super positif qu'au prospectif de l'INP, il y a eu le groupe de réflexion sur les pratiques de recherche et vis-à-vis de la transition. Ça, typiquement, c'est sponsorisé par. Donc, on voit, ils ont bien vu qu'il y avait une demande de la base, ils l'ont mis en place, ça fait un document, la question c'est qu'est-ce qui sera fait de ce document, mais là ça me paraît une bonne manière de faire les choses.